Bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Ciel et bienvenue dans Capital, notre émission préparée aujourd'hui par
Christine Affota
et soutenue par Elisabeth Couget. Alors, nous vous proposons aujourd'hui visiter les capitales du monde, comme dans notre émission toujours, avec l'aide de Simon, notre fidèle ingénieur du son. Tournons aujourd'hui le regard vers l'Afrique du Nord.
Et plus précisément le Maroc et sa capitale Rabat. Une capitale plutôt récente, seulement depuis 1912. C'est la capitale politique et administrative, car la plus grande ville du Maroc, c'est en fait Casablanca, à une centaine de kilomètres. Et Casablanca, c'est la capitale économique qui s'est énormément développée tout au long du XXe siècle. Casablanca compte plus de 4 millions d'habitants, tandis que Rabat en a moins de 600 000.
Ah oui. Un peu comme New York et Washington, une très grande ville et une capitale plus petite, plus sage, plus ordonnée.
Mais qui est tout de même la quatrième ville impériale du Maroc, avec Fès, Marrakech et Meknès. Et Rabat possède un patrimoine encore plus ancien, qui date de l'époque romaine. Rappelons que le Maroc est l'une des plus anciennes monarchies au monde, fondée il y a 12 siècles. La première capitale du Maroc, c'est Fès, fondée en 809 par les Idrissides. Elle sera aussi capitale sous les Almoravides et à nouveau sous les Mérinides en 1276.
Alors attends, je suis un peu perdue avec toutes ces dynasties de Maroc.
D'accord, je vais t'aider alors. En fait, il y a eu 6 dynasties au Maroc. Idrisside, Almoravide, Almohade, Mérinide, Saadienne et Alaouite.
Cette dernière,
les Alaouites, arrivent au pouvoir en 1666 et gouvernent toujours le Maroc. Pour t'en souvenir dans l'ordre, écoute, j'ai trouvé un moyen mnémotechnique personnel. Il a aimé le Maroc si attachant. Tu prends l'initiale de chaque mot, sauf le, et tu as Idrisside, Almoravide, Almohade, Méridine, Saadienne et Alaouite. D'accord ?
Ah oui, parfait.
Donc, je reviens à Fès, une ville splendide qui avait la réputation d'être l'Athènes de l'Afrique, carrément. Mmh. C'est la capitale de la foi et du savoir.
Des étudiants y venaient de partout, tant son prestige était considérable.
Oui. Il y a plus de 1000 ans déjà. Par exemple, sais-tu qu'un certain Gerbert d'Aurillac, moine français, vint étudier à Fès en 967 à la mosquée Karaouine, qui existe toujours, et il se passionna là-bas pour les mathématiques. Mmh. En 999, Gerbert d'Aurillac fut élu pape sous le nom de Sylvestre II. Et c'est lui qui vulgarisa les chiffres arabes dans le monde chrétien qu'il avait appris, donc, à Fès. Ouais. Et rappelons que Sylvestre II était un ami de Fulbert.
Oui, ils ont été étudiants ensemble, alors. Et voilà, Gerbert d'Aurillac, donc évêque de Chartres, de l'an 1006 à 1028. Étonnante ouverture d'esprit au Moyen-Âge. Après Fès, quelle ville devient la capitale du royaume ?
Marrakech, fondée au XIe siècle, 1070. Une ville superbe aussi. Est-ce que tu connais ces vers ? Vois Marrakech la rouge et or de la nuit brune. Déjà son grand marché poudroie au fond des dunes. Je ne connais pas la suite, mais j'aime beaucoup le début. Et Marrakech va connaître une civilisation brillante et raffinée. Elle est surnommée la perle du sud, colorée et animée avec sa célèbre et immense place Djemaa el Fna. Marrakech est considérée comme le cœur historique du Maroc. Et d'ailleurs, son nom vient de Maroc. Maroc, Marrakech. Mmh, et du XIe au XIIIe siècle, Marrakech, c'est la capitale d'un empire qui englobait l'Espagne musulmane.
Et Meknès ? Et la troisième ville, c'est la troisième ville impériale, c'est ça ?
Meknès devient capitale au XVIIe siècle avec les Alaouites qui règnent encore aujourd'hui. Le roi Mohamed VI, le roi actuel, est le 23e représentant de la lignée des Alaouites, une dynastie originaire d'Arabie qui se dit descendante d'Ali, le gendre du prophète. Après ces périodes de grandeur, le royaume du Maroc va connaître, à partir du XVIIIe siècle, une longue période de troubles.
Pour quelle raison ?
Sécheresse, famine, épidémie vont accabler le pays. L'armée française s'empara de l'Algérie en 1830. Elle entre au Maroc en 1844. Un traité de protectorat va finalement être signé le 30 mars 1912 avec la France, représentée par Lyoté, résident général au Maroc de 1912 à 1925.
Et voilà enfin Rabat, cité impériale de la quatrième capitale au XXe siècle du royaume du Maroc.
Rabat doit en effet à Lyoté d'avoir été choisi comme capitale. Lyoté en a fait une grande ville, moderne, agréable à vivre, cosmopolite. Mais la ville existait depuis longtemps déjà. Rabat est fondée en 1150 par le grand sultan Almohad Abd al-Moumin sur l'emplacement d'une bourgade almoravide. Tu me suis ?
Mm-hmm. Oui.
Au nord de l'antique cité romaine de Sala Colonia, dont on peut voir encore des ruines à Rabat. Le sultan Almohad, donc Abd al-Moumin, fait édifier une citadelle où on peut encore voir la Casbah des Zoudaya, et son petit-fils Yacoub al-Mansour ordonne la construction d'immenses remparts. Le but des sultans, c'est la constitution d'une solide base.
Pour quelle raison ?
Pour les expéditions en Andalousie. Et la ville est nommée Ribat al-Fath, la forteresse de la conquête. L'afflux de réfugiés d'Andalousie culmine au début du XVIIe siècle avec l'arrêté d'expulsion des musulmans d'Espagne par le roi Philippe III. Mmh. Et ça va donner à Rabat un nouveau dynamisme. Mais Rabat est alors connu sous le nom de Salé le Neuf et fait face en fait de l'autre côté du fleuve qui s'appelle le Bourré-Greg à Salé, Salé le Vieux, face à Rabat. Et de quoi Salé le Neuf tire ses ressources, donc Rabat ? Eh bien, de la course en mer contre les bateaux chrétiens.
Ah ! Ce sont donc ce qu'on appelait les pirates barbaresques.
Ce sont des écumeurs de mer qui sèment la terreur. Et je ne sais pas si tu te souviens des histoires, par exemple, de Robinson Crusoe qui a été captif des corsaires de Salé. Ils vont jusqu'en Angleterre, donc. Et ils font même des raids en Irlande et même en Islande. Encore bien plus au nord. Mm-hmm. Et d'ailleurs, dans le Candide, on en parle aussi dans le Candide de Voltaire. Et en Angleterre, on les surnommait les Salé Robbers. Salé. Avec l'avènement des Alaouites en 1666, la Casbah est transformée en forteresse et les remparts prolongés.
Mm-hmm. Alors, comment est Rabat aujourd'hui ?
Une belle ville aux larges avenues où quelques beaux édifices art déco longent d'immenses remparts. Lyoté y appliqua avec succès ses principes d'urbanisme novateur. Un tel succès même qu'il a valu à Rabat le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012 pour le caractère exceptionnel de sa ville nouvelle.
Alors, on va
instant de pause peut-être.
Petite pause.
Voilà, en écoutant Broderies orientales de Saïd Chraïbi. Thank you.
Vous écoutez notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel. Tout à l'heure, on a raconté un peu son histoire et nous retrouvons 100 ans après l'arrivée de l'IOT au Maroc, qui est donc, rappelons, il est arrivé là en 1912 et voilà, alors 100 ans après,
100 ans après.
En 2012, que s'est-il passé ?
Et sait-on d'abord que l'IOT écrivit en 1892 un article qui fit sensation. Et cet article s'appelait « Le rôle social de l'officier ». Tu vois que ça allait beaucoup plus loin que la vision simplement militaire chez l'IOT.
Oui, j'ai l'impression.
Et Casablanca et Rabat ont eu leur destin bouleversé par l'IOT. La construction du port à Casa... Et puis le choix, bien sûr, de Rabat comme capitale. Rabat qui était alors une cité sur le déclin. Depuis l'an 2000, la ville connaît un développement tout azimut, tentaculaire du nord au sud. Beaucoup de nouveaux quartiers, l'aménagement de l'estuaire et des rives de l'Oued, Bourg et Greg, la construction du port, un tunnel qui relie Salé à Rabat, l'arrivée du tram, etc.
Rabat, tu l'as dit tout à l'heure, se trouve sur la côte ouest du Maroc.
Oui, sur une longue plaine côtière qui concentre une grande partie des moyens de production du Maroc. Et selon l'expression assez cynique du protectorat, c'était ce qu'on appelait le cœur du Maroc utile. Ouh là là. Oui. Donc elle est située entre les montagnes du Rif au nord et celle de l'Anti-Atlas au sud. Et sur cette bande côtière, en bordure de l'océan Atlantique, du nord au sud, on trouve les villes de Larache, puis Casablanca, Rabat, El Jadida, le port sardinier de Safi, et puis jusqu'à Essaouira, l'ancienne Mogador.
Magnifique, Essaouira. Alors, et le climat à Rabat, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Idéal, tout simplement. Il ne fait jamais plus froid que 6 degrés et jamais plus chaud que 30. Donc, c'est pas mal. Donc, jamais trop chaud ni trop froid. En été, l'océan vaporise un voile de brume qui adoucit l'éclat du soleil. Et c'est une ville où on respire. Beaucoup d'espaces verts, de parcs, de jardins. Et en fait, la partie intéressante de la ville, elle est vraiment à taille humaine.
Alors, comment s'y repérer quand on veut visiter la ville ?
En fait, il y a en gros quatre parties. La vieille ville, avec la Médina et la Casbah des Oudaya. Ça, c'est vraiment le top à visiter.
Oui, absolument.
Le centre de la ville moderne, autour de l'avenue Mohamed V.
Qui était, n'oublions pas, le grand-père du roi actuel, Mohamed VI.
Alors oui, Mohamed V, il a vécu, il est né en 1909, mort en 1961. Et ce fut un roi sage, lucide et respecté. Il eut une attitude vraiment courageuse et noble pendant la Deuxième Guerre mondiale qui lui valut, on ne le sait pas peut-être, d'être fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Et par exemple, lorsque Vichy lui demanda la liste des Juifs au Maroc, il répondit au gouvernement de Vichy, il n'y a pas de Juifs au Maroc, il n'y a que des citoyens marocains.
Eh ben, voilà un exemple que certains Pétain n'ont pas suivi.
On a mieux fait dessus.
Bien, bon, enfin ça, c'est un autre sujet. Alors, les deux autres parties de Rabat, que peut-on nous en dire ?
Alors, la grande partie du Palais Royal, qui est immense, au cœur de la ville, elle mérite une balade, même si on ne peut pas vraiment entrer dans le Palais Royal. Et tout près de ce quartier du Palais Royal, il y a la nécropole du Chella. Et le quatrième quartier, c'est l'Agdal, un quartier plutôt chic, résidentiel et commerçant.
Alors, commençons peut-être par la vieille ville, la
plus ancienne. Et admirons d'abord les murailles longues de 5 km, les murailles ocre rouge du Méchoir et les murs crénelés du Chella, tous brillamment éclairés la nuit. L'ensemble est magnifique.
Alors, on comprend que l'IOT soit tombé amoureux du Maroc.
Et de son peuple, et de sa culture. Ainsi, il ne voulut jamais détruire les médinas. Les quartiers européens ont été construits à côté. Et il n'autorisa pas l'accès des mosquées aux non-musulmans, une décision qui était unique à l'époque.
Alors nous voici donc à la Médina, le quartier arabe de Rabat.
La Médina est construite au XVIIe siècle pour accueillir les réfugiés d'Andalousie. Elle est beaucoup moins pittoresque que les médinas de Fès ou de Marrakech. Mais elle n'en est que plus authentique au fond, car ses échoppes s'adressent surtout à la clientèle locale. Dans l'ancien quartier juif, le Mella, on trouve aujourd'hui le marché aux puces. Et si l'on se dirige vers la place du souk El Ghezel, c'est-à-dire le souk de la laine, eh bien, il y a 3 siècles, sur cette place, on présentait aux acheteurs éventuels les captifs chrétiens saisis en mer par les pirates de Salé.
Et oui, alors on imagine le tableau, effectivement, on a vu un peu l'image que les cinéastes ont inventée ou imaginée à leur tour, mais effectivement, ça a dû être terrible alors. Alors, immanquable à Rabat, la visite de la Casbah des Oudaïs.
Ça, c'est un coup de cœur. C'est vraiment une des premières constructions de la ville, bâtie au XIIe siècle, sur un site occupé depuis l'époque romaine. Les Oudaïs, c'était une terrible tribu de pillards et ils se livraient à de telles exactions qu'en 1832, le sultan Moulay Abderrahman fit arrêter leur chef, le caïd. Et cela provoqua la révolte des Oudaïas qui se rendirent maîtres de Fès avant d'en être délogés manu militari et dispersés dans tout le royaume. En 1844, l'un des groupes Oudaïas échoua à Rabat dans cette casbah, alors à l'abandon. Ils étaient assagis désormais, ils furent même employés à surveiller d'autres tribus qui faisaient régner la sécurité, d'où les remparts de la ville.
Alors, d'où vient le nom du Casbah des Oudaïas?
Alors, d'où ce nom, oui, Casbah des Oudaïas.
C'est à cause de ça.
Et alors, visitons maintenant cette Casbah. On y entre par la petite porte qui donne sur le jardin andalou. Ça, c'est une merveille de tranquillité. Ça rappelle les jardins de Grenade ou de Séville. Au printemps, c'est un éden de senteurs, de suaves orangers, de jasmin ou parfums délicats. Et il est surplombé, ce jardin, par l'ancienne résidence d'été des sultans qui abrite un musée. Et en sortant, bien sûr, de ce jardin, prenons le temps de nous arrêter au café Maure en contemplant la vue sur Salé et le panorama sur l'estuaire du Bourg-Égrec et l'océan superbe.
Peut-être en dégustant un café turc.
Avec une petite pause, en écoutant Moroccan Soul.
Nous reprenons notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel et dans cette troisième partie, nous continuons la découverte et la promenade dans la ville de Rabat.
Et nous sommes donc dans la casbah des Oudayas. Et cette casbah, c'est un dédale de toutes petites rues adorables, avec leurs maisons peintes en blanc qui symbolisent l'unité ou en bleu vif qui symbolise la mer. Et on était entré par la petite porte, on sort cette fois-ci par la grande porte des Oudayas, qui est un monument impressionnant. Et à l'intérieur de cette grande porte, il y a 3 salles qui accueillent des expos.
Alors, tu parlais d'un musée de cette casbah des Oudayas. Hein.
Ah oui, le musée de la joaillerie. La superbe cour de ce musée est ornée de zéliges. Ce sont des carreaux de terre cuites émaillés dont l'art apparaît au Xe siècle. Bien sûr, une fontaine en marbre au milieu de la cour. Et le musée de la joaillerie vous apprendra tout sur les bijoux. Les bijoux de la préhistoire jusqu'à nos jours. Pierre taillée de la préhistoire, pâte de verre à l'époque romaine, bronze et enfin or. Une visite passionnante, une collection extrêmement riche.
Et donc, à ne pas manquer donc. Hein. Ensuite, quelle est notre direction? Où allons-nous?
Vers la Tour Hassan. Alors, la Tour Hassan, c'est un minaret du XIIe siècle qui n'a jamais été achevé. Il devait faire 80 mètres, il n'en fait que 44. Et c'est tout ce qui reste d'un rêve grandiose du sultan Yacoub al-Mansour qui voulait bâtir la plus grande mosquée du monde. Mais les travaux furent arrêtés après sa mort. Et puis en plus, il y a eu des pillages et aussi le tremblement de terre de 1755.
Exactement, qui a fait pas mal de dégâts. Puisque n'oublions pas, c'est le même qui détruisit Lisbonne et fait plus de 60 000 morts.
À Lisbonne même.
À Lisbonne, dans la ville.
Par contre, il atteint aussi les pays d'Afrique du Nord, tellement il était puissant. Il était d'une magnitude très élevée, entre 8 et 9, et il s'est fait sentir jusqu'au Maroc. Beaucoup plus récent, pas loin de la Tour Hassan, le mausolée de Mohamed V, dont nous avons parlé, qui date de 1961. Là, c'est un chef-d'œuvre de l'art marocain traditionnel. Et sous le toit de tuiles vertes, luxe, raffinement et matériaux nobles. Le sarcophage royal en onyx blanc se trouve sous une coupole d'acajou et de cèdre doré à la main.
Il y a un autre site important à visiter, à Rabat encore ?
Bien sûr, il y a la nécropole du Chella qui se trouve près du palais royal. Alors, cette nécropole, c'est un ensemble de sépultures très anciennes. En 1234, le sultan Abou Youssef Yacoub choisit le site de l'ancienne cité romaine de Sala Colonia pour abriter les tombeaux de la dynastie Mérinide. Chella a souffert du passage des siècles et là aussi du terrible tremblement de terre de 1755 qui a détruit, qui a abîmé un certain nombre de monuments au Maroc. La nécropole du Chella, c'est aussi une visite incontournable, non seulement pour les amoureux des vieilles pierres et ceux qui aiment l'histoire, mais c'est un lieu enchanteur.
Alors, et qui permet de vagabonder à travers les vestiges de deux grandes civilisations.
On n'entend que les claquements de bec d'environ 300 cigognes qui colonisent aussi le vénérable minaret, dans un bassin de pierre, poissons et anguilles sacrées. Les femmes y déposaient des offrandes pour devenir fertiles. Il faut monter sur la pente au-dessus des ruines romaines. La vue embrasse le site, les murailles ocre, les marabouts qui sont des tombeaux à coupoles de saints vénérés. Elle embrasse aussi le bosquet aux oiseaux, le minaret aux cigognes, les collines alentour et jusqu'à l'oued Bouregreg.
C'est un tableau parfait, riche d'histoire et de tradition que tu viens nous dépeindre là.
C'est vrai. Et de l'autre côté du Bouregreg se trouve la ville de Salé, la ville jumelle de Rabat, mais tellement différente. Rabat, c'est la ville moderne, l'occidentalisée. Salé, c'est la tradition, la populaire, avec sa belle médina animée. Et c'est aussi Salé, la religieuse, avec sa médersa, une superbe école coranique qui date de 1333, entièrement restaurée. On donne toujours des cours sous les arcades à colonnades décorées de zéliges. La médersa compte 24 chambres monacales pour les étudiants. Quoique aujourd'hui, elles soient quand même équipées de prises électriques et Internet. Donc pas tellement
Oui, c'est moins... Oui, c'est, oui, voilà.
Elles se sont modernisées.
1333, voilà. C'est un peu loin maintenant. Mmh. Mais bon, le bâtiment garde toutes ces belles images de cette époque-là. Alors, nous avons fait le tour, je pense, de cette jolie ville de Rabat. Mais il y a des plages.
Beaucoup de plages, c'est sur la mer. Donc, au sud de Rabat, les plages préférées des Rabatis, c'est comme ça qu'on appelle les gens de Rabat, sont les plages de Témara, la belle Rosemary Plage, Bouznika et Skrirat, où eut lieu un attentat violent, mais qui fut manqué, contre le roi Hassan II en 1971, qui fut tout de même une centaine de morts. Ça a été un épisode effroyable.
C'est sanglant.
Alors, au nord de Rabat, on trouve les plages de Sidi Bouknadel, la belle plage des Nations, et puis, pas loin, un autre musée à voir, le musée d'art Belghazi, qui est en fait le musée des traditions et des métiers d'art et qui présente une magnifique collection rassemblée depuis 4 générations. Et chaque génération avait sa spécialité. La première, c'était des manuscrits et des astrolabes. La seconde, des tissus et des selles de chevaux au fil d'argent. La troisième, l'orfèvrerie et la broderie. Et la quatrième, l'ébénisterie. Et en fait, c'est une qualité exceptionnelle qui nous est offerte à voir. Et cette visite est vraiment vivante et riche.
Et oui. Un autre site autour de Rabat, peut-être ?
Alors oui, un jardin que j'aime particulièrement. Ce sont les jardins exotiques du Père François, créés dans les années 50 par Marcel François. Donc on disait qu'on allait au jardin du Père François, voilà. Marcel François, c'était un horticulteur passionné qui consacra 30 ans de sa vie à ce luxuriant jardin paysager. Et sur 4 hectares, on trouve environ 1500 variétés d'arbres et de plantes du Japon, de Chine, d'Andalousie, de Tahiti et d'Amérique du Sud, regroupées par paysage. C'est vraiment ma promenade préférée. Et bien sûr, à la fin, un café mort autour d'une fontaine.
Alors, une capitale qui ne manque ni de charme, ni d'atouts, Lyoté avait raison.
Et Rabat se projette aussi en ville-lumière. Il y a un vaste projet le long de la vallée du Bourg-Égrec, d'un ensemble de bibliothèques, théâtres et la plus haute tour du continent africain, prévue pour 45 étages.
Ben, pourvu que Rabat ne commence pas à se ressembler à Dubaï.
Bon, je crois qu'on en est encore loin quand même.
Voilà, alors ne nous inquiétons pas, profitons de tout ce qu'on vient d'apprendre. Merci Christine, merci de nous avoir écoutés sur Radio Grand Ciel.
À bientôt et nous nous quittons sur cette jolie musique des mille et une nuits.